Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
« 16h55, dans le studio de Par Jupiter, juste avant l'émission. »«
C'est 6 saucissons, 6 sont à 6 sous, c'est 6 en saucissons, 6 sont à 6 sous. » »«
Mais qu'est-ce qu'elle fait ?»«
Elle fait des exercices de diction, je crois. »«
Elle sait toujours pas dire 8, mais elle travaille sa diction. »«
Bah ouais, ouais. »« Ça va, je vous entends. »«
Ouais, bah nous, on parle clairement, n'empêche. »«
Et il y a une raison particulière à ces exercices ?»«
Bah oui, on reçoit Jamel Bensala. »«
Le scénariste de Neuilly, sa mère ?»«
Ah ouais, le mec qui a eu l'inconscience de te faire tourner dans la suite. »«
Toi, t'as joué dans un film ? Alors que moi qui ai fait le cours Florent, mais attends, mais comment il a eu cette idée, le gars ?»«
Bah vous allez pas me croire, mais il écoute souvent l'émission. Je pense qu'il a dû repérer mon petit jeu de comédie dans la conf de rédac.
Quoi ?
Bah oui.
Mais tu joues dans les confs de rédac ?
Oui, bah, lui a bien senti, hein, mon interprétation, l'intensité de mon jeu, ma diction, entre autres.
Ah ouais, alors déjà que t'es humoriste et que tu te prends pour une journaliste, maintenant madame, elle est actrice, quoi, c'est ça ?
Mais quoi ? Tu veux dire que ma compte de rédac, c'est du fake?
En parlant de fake, je signale que moi, j'ai quand même passé 3 ans au cours Florent.
Ouais, et c'est quand la dernière fois que t'as joué du Tchekhov, hein? Alors, Jamel Bensala, il sait ce que c'est que la comédie. Alors, quand il a besoin de quelqu'un de drôle, il ne se trompe pas, c'est
Mais alors? Il y a peut-être des directeurs de casting qui pourraient nous écouter.
Ah, évidemment, et 5 ans de sketch tous les jours, tu penses bien qu'ici, il y a un vivier d'acteurs.
Non, mais quel vivier? J'ai fait 3 ans au cours Florent. Vous savez quoi, ça coûte 3 ans au cours Florent?
Mais c'est génial, hein? Alors, accrochez-vous pour me faire repérer. Je vais faire toute l'émission avec l'accent stéphanois.
Mais il y a quoi comme comédie qui se tourne à Saint-Étienne, Juliette? C'est tout gris, Saint-Étienne.
Ben, on sait jamais. Il y a peut-être les frères Dardenne qui nous écoutent.
Ouais, on sait jamais, ouais. Comme ça, au moins, ils sauront que j'ai fait 3 ans.
Les cours Florent, on sait!
Ouais, en plus, j'ai même fait 4 ans parce que j'ai redoublé.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up de la radio publique, dont voici la devise du jour. Mieux vaut être seul en one-to-one que mal accompagné en B2B. Et voici les 3 thèmes choisis par notre algorithme. Au sommet de l'ONU et en l'absence du président brésilien Bolsonaro, Emmanuel Macron se pose en recours pour défendre la forêt amazonienne.
Nous sommes sauvés ! Je vois le Christ !
Hélène, Virginie, Amandine, Stéphie ne sont pas des prénoms de tempêtes équatoriales, ce sont les prénoms des grosses machines qui font des gros trous pour que le Grand Paris devienne une grosse réalité. Enfin, faire péter la frontière entre Paris et la banlieue et simplifier la vie de ceux qui y vivent. Sinon, il y a une autre solution, toute simple.
Mais si vous preniez pas tous le même train le matin, vous rentrez tous chez vous le soir à la même heure, hein ? Il y en aurait de la place.
Il y a 5 ans, Guillaume Gallienne proposait un César des maquilleuses. Certaines d'entre elles se qualifient de prolétaires du cinéma, bien qu'elles recueillent souvent les confidences des acteurs et des actrices.
Je préfère utiliser mon vernis parce que ça me dégoûte de penser que le pinceau a touché d'autres petites saucisses cocktail.
Juliette Arnaud, nous formons aujourd'hui un couple d'animatrices. Qui serait le trouple de chroniqueurs?
Eh bien, ça serait un trouple de grands voyageurs. Il y aurait d'abord Hippolyte Girardot, le natif de Boulogne-Billancourt. Alors, en termes d'exotisme, bien sûr, c'est maigre. Mais puisqu'on se tue à vous dire que ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage.
Oh là là, que c'est beau. Bon, moi j'ai fait quelque chose d'assez utile avec du futile.
Eh ben, ça promet. Ensuite, nous aurons Guillaume Meurice, deuxième meilleur représentant de la Saône-et-Loire, sachant que le premier, c'est le maréchal Mac Mahon, celui qui disait « La fièvre typhoïde est une maladie terrible, ou on en meurt, ou on en reste idiot. J'en sais quelque chose, je l'ai eu ».
Bon, Dijon, c'est la Côte d'Or, mais c'est pas grave, on n'est pas une émission de géographie non plus, non. Juliette. Moi, je vais vous parler climat aujourd'hui. Je suis allé interroger mes concitoyens qui étaient contents de me voir ce matin.
France Inter, qui est une radio malheureusement entièrement vendue au pouvoir, mais entièrement.
Entièrement, 3 fois, oui, on est vendu au pouvoir, d'ailleurs on attend toujours le chèque.
Oui, c'est vrai, ça, il est où ce chèque?
On a pourvu le chèque.
Et ensuite, Rukyata Ouédraogo, celle qui nous vient de très loin pour arriver jusqu'à la maison de la radio, Burkina Faso, au Paris 16e arrondissement. 2 salles, 2 ambiances, mais suffisamment de talent pour faire ce grand écart.
Bonsoir Juliette. Aujourd'hui, je vais vous parler de ciné coco taillé.
Et voici.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé.
C'est une sorte d'open space du cinéma. Voici celui qui va chambouler notre open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes
Jamel Bensala.
France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bonjour Jamel Bensala.
Bonjour à vous.
Bienvenue, il y a 22 ans, vous aviez à peu près 22 ans, et vous proposiez Le ciel, les oiseaux et ta mère avec Jamel Debbouze, Julien Courbet avec Y, Laurent Deutsch, des jeunes banlieusards en vacances dans le sud, puis il y a eu notamment Il était une fois dans l'Oued, on vous connaît pour Neuilly sa mère, et puis aujourd'hui...
Et puis aujourd'hui, v'là-t-il pas que vous vous lancez dans le BTP.
C'est pas faux. C'est pas faux. C'est un hommage à ma famille qui a passé sa vie dedans. Donc ouais, c'est une espèce de continuité. Mais, non. Oui, c'est vrai. J'ai ouvert un site, il n'y a pas très longtemps. Enfin, je ne suis pas le seul à l'avoir ouvert. Nous sommes des associés.
Oui,
mais je suis l'un des associés. Voilà.
Les 7 Batignolles, c'est dans le nouveau quartier des Batignolles. C'est à Paris, bien sûr. Métro Porte de Clichy, pour ceux qui passent par là.
Ou Pont Cardinet.
Ouais.
En face du nouveau palais de justice de Paris.
Et en sortant à Porte de Clichy, vous prenez bien à gauche. Quand vous avez Paris dans le dos, c'est à gauche
mais
que vous prenez, faites pas comme moi.
D'aujourd'hui, dans un contexte où les cinémas indépendants ont beaucoup de mal, où on a que des complexes, etc., vous offrez une sorte de complexe indépendant. Il y a cette salle.
Oui, cette salle, magnifique. Ouais. C'est le plus beau cinéma du monde. Je pense, non, en toute modestie. Non, il est absolument magnifique, il est très beau. Enfin, vous l'avez.
Juliette l'a visité.
Oui. Et j'ai insisté là-dessus auprès de mes collègues. Il est extrêmement beau. C'est extrêmement joli, mais jusqu'à chaque détail. Les cendriers, ils sont canons. J'ai essayé d'en voler un, puis j'ai eu peur.
Mais ça, je pourrais vous l'offrir, parce que c'est moi qui les ai choisis.
Ils sont tellement jolis.
Mais comment on fait aujourd'hui, Jamel Ben Salah, pour ouvrir un cinéma, cette salle?
Déjà, on rencontre des associés particulièrement, suffisamment culottés pour accepter l'idée de s'associer à moi, parce que moi, je suis pas du tout de la partie. Je raconte des histoires, je tourne des films, et ça faisait quand même quelques années que j'avais cette idée qui me trottait en tête d'avoir un cinéma, parce que finalement, quand on fait un film, on est metteur en scène une fois tous les deux, trois, quatre ans. Mm-hmm. Mais le reste du temps, je fais d'autres choses. Je suis pas metteur en scène tous les jours. Vous êtes journaliste tous les jours. Vous êtes,
là, c'est un mauvais exemple, mais c'est pas grave.
Moi, je vous écoute tous les jours, et tous les jours, vous faites marrer, et puis vous m'informez. Donc, en tout cas, voilà, j'ai pas cette possibilité-là. Donc, du coup, le fait d'avoir un cinéma, c'est quelque part avoir la possibilité de prolonger son plaisir et sa passion tous les jours, et de présenter des choses, parce que ma passion n'est pas circonscrite à mon art, à ce que je fais. Donc, je fais du cinéma parce que j'ai aimé le cinéma des autres, et que du coup, projeter le cinéma des autres, et puis s'enrichir, rencontrer des gens, c'est quand même plus passionnant que monter un restaurant, quoi. Donc, mais voilà, et j'avais besoin surtout d'avoir une activité quotidienne. Là, je peux vous garantir qu'elle est quotidienne. Donc c'est vraiment. Dites-moi.
Justement, en lisant votre bio, on apprend que vous voyez en gros 5 films par semaine. Ce cinéma-là, vous l'avez pensé comme un cinéphile que vous êtes, ou comme un réalisateur producteur?
Alors déjà, je l'ai pensé avec plein de gens. Comme ça, parce qu'on est pas, c'est comme un film, ça se fait pas tout seul. Voilà, on a envie d'une chose, et puis après on essaye de. J'écris pas seul, j'écris toujours à 2 ou 3. Je fais pas mes films. Vous savez ce que c'est, plus que n'importe qui. Vous êtes comédien pour la plupart du temps. Vous avez découvert le cinéma un petit peu.
Grâce à moi.
Enfin, non, vous l'aviez fait déjà, me semble-t-il. Et moi j'aime les aventures collectives. Donc là, c'était vraiment, c'est né déjà d'une passion, de l'envie d'avoir un cinéma. Et ensuite, donc j'ai l'avantage de, quand on fait des films, c'est qu'on fait des projections en province. On présente souvent son film un peu partout en France pour rencontrer le public. Et j'ai donc découvert le métier d'exploitant. Et alors j'en ai découvert des passionnants et puis des pas terribles. Et puis dans les passionnants, il y a vraiment des gens qui sont vraiment en plus touchants, qui vous transmettent leur passion, quoi, celle de transmettre des films auprès du public. Et donc je me suis associé, parce que j'avais entendu parler en fait d'un appel d'offres de la mairie de Paris pour pouvoir construire justement ce cinéma des Batignolles, parce que c'est né de l'envie de la mairie de Paris en fait de redéployer du cinéma dans un quartier qu'on était dépourvu. Et donc du coup l'idée c'était de se dire, voilà, il voulait en fait que ce soit un exploitant indépendant qui propose en fait sa version du cinéma, sa vision du cinéma, pour changer de ce que proposait Pathé, MK2, UGC. Et donc on se connaissait bien, puisque je présentais mes films fréquemment chez eux à Perpignan ou ailleurs. D'ailleurs, ils ont plein de cinémas en France. Et puis voilà, je leur ai proposé ce projet, on a candidaté, et puis on s'est dit, voilà, aujourd'hui la vraie problématique du cinéma, c'est d'être challengé par les applications internet, par Netflix, par Amazon, Disney Plus demain. Et donc du coup, quand vous êtes challengé par ça, il faut offrir plus que du cinéma.
Oui, j'allais vous dire, aujourd'hui un cinéma comme celui-là, indépendant avec cette salle, il peut pas être que du cinéma.
Non.
Il y a un bar, des expos, des animations. Vous mettez aussi l'accent sur faire venir les enfants et avoir des animations pour les enfants, pour les faire venir au cinéma.
Exactement, et puis on le développe tous les jours, ça, parce que c'est vraiment Rome ne s'est pas fait en un jour, et donc ce cinéma va vraiment trouver son rythme de croisière avec un peu de temps, puisque pour l'instant il a du mal à démarrer, puisque les gens ont du mal à le trouver. Mais en tout cas,
à gauche, à part de clichés, à gauche.
Et maintenant, je pense que les gens que vous avez contactés, que vous êtes allés voir au petit kebab, là, maintenant ils savent qu'il existe, en tout cas ce cinéma. C'est un bon réflexe d'aller dans le kebab pour savoir si le cinéma existe, parce que eux, ils sont là, quoi, tous les jours. Donc,
oui, donc, et eux, voilà.
J'aurais dû dire ça, parce que je l'ai dit plusieurs fois à la maire de Paris, je me dis, les gens ne savent pas où il est. Elle m'a dit, mais si, vous m'avez prouvé qu'on ne savait pas où il était. Ouais. Enfin bref, tout ça pour vous dire que donc du coup, oui, l'envie c'est d'offrir un supplément d'âme déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas se permettre simplement d'être un guichet de cinéma avec une carte illimitée, parce que beaucoup, à Paris ça fonctionne, beaucoup, ouais, les gens en province ne le savent pas, peut-être pas, mais avec des abonnements mensuels où vous allez voir tout et n'importe quoi quand vous voulez. Enfin voilà, alors c'est super pour le cinéma puisque finalement ça a finalement développé les entrées. On va pas, mais ça, voilà, c'est-à-dire qu'il y a pas. Vous allez au cinéma comme vous allez un peu au supermarché. Nous, c'est pas un supermarché. L'idée, c'est d'amener le cinéma vers les gens avec un confort d'avant séance, d'après séance, et puis de choisir les films, d'avoir une éditorialisation du cinéma, un peu comme. Comme dans un ciné-club, sauf que c'est un ciné-club commercial.
Et même des poufs, un piano, tout ça.
Mais est-ce que vous avez des contacts avec les écoles, les lycées qu'il y a autour de vous, où vous faites un travail avec eux?
Parce que je pense que c'est tirer une balle dans le pied dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a accepté, parce qu'il y a quand même, vous savez, il y a plein de choses. Enfin, moi, j'ai découvert tout ça. Hein. Je suis vraiment, quand je fais des films, je suis tout seul, quelque part. Donc, là, j'ai découvert un peu les règles, les lois du marché, du cinéma. Donc, du coup, vous avez, puisqu'on va parler du Grand Paris tout à l'heure, nous sommes en zone limitrophe de la banlieue. Enfin, et l'idée, c'est justement qu'il n'y ait plus d'espace entre Paris et la banlieue. Donc, en fait, ça, c'est un quartier qui a été pensé justement pour que le périphérique soit le moins visible possible. Mais, enfin, il est quand même très visible. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est que vraiment, il y a quelque chose que les passages soient plus simples, plus fluides, qu'il n'y ait pas cette frontière du périphérique. Et donc, du coup, c'est un nouveau quartier. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on ne pouvait pas perturber non plus les cinémas aux alentours. Il y avait notamment un cinéma très puissant qui est le cinéma de Saint-Ouen, qui a une super programmation, et on s'est engagé vis-à-vis de lui de ne pas aller sur les programmations d'école et tout ça pour l'instant, et donc on le fera pas. Mais c'est vrai que du coup ça nous rend la vie dure, parce que c'est eux qu'on vise.
Donc sachez-le, il est ouvert en janvier.
Et vous pouvez, je sais pas, choper les écoles, les lycées du 17e.
Oui, ça on peut, mais voilà, on y va mollo, parce que voilà, on n'a pas cette possibilité là pour l'instant techniquement. En fait, voilà, c'est très.
On vous laisse l'adresse d'Hippolyte très chargée de.
Mais en tout cas,
c'est très intéressant, ce problème, justement, parce que c'est un faux cinéma municipal, puisque c'est la mairie qui a quand même voulu le cinéma, et qui finalement, ensuite, le vivier, en fait, d'une municipalité, ce sont ses habitants.
Exactement.
Et apparemment, il est un peu empêché de le faire, quoi. Donc c'est assez paradoxal.
Oui, parce qu'on est commercial et qu'on doit pas non plus déborder sur l'activité culturelle.
Et bien donc, pour que vive le cinéma, là, c'est les 7 Batignolles, donc dans le nouveau quartier des Batignolles, à Paris, en face du tribunal de Paris, métroporte de Clichy à gauche, comme vous l'indique Juliette, si vous passez par Paris, c'est un très 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 beau cinéma, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous êtes sur France Inter, il me semble, hein,
oui,
c'est ça, par Jupiter,
oui, c'est exact. Ça, oui, exact.
Ah, formidable, ça tombe bien, c'est ce que je cherchais, moi.
Oui, non, c'est France Inter, c'est ça. Voilà. Keep on running.
Ah! Keep on Running, nous dit Spencer Davis Group sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter en compagnie de Jamen Belsala, le réalisateur, le producteur, le scénariste. Vous connaissez Neuilly sa mère, vous connaissez Le ciel, les oiseaux et ta mère.
Tous les trucs en mer. J'ai fait d'OPA sur le terme de mer.
Les dents de la mer.
Le mot qui n'est pourtant pas présent dans Les Sept Batignolles, le complexe de salles de cinéma indépendant que vous avez ouvert, quartier des Batignolles.
Cinéma sa mère.
Et pour entourer Jamel Bensala Cinéma sa mère,
il y a Hippolyte Girardot, il y a Rukyata Ouédraogo et Guillaume Meurice. Oui.
Et l'info ta mère,
c'est ma mère. Mais c'est insupportable enfin votre attitude. Mais enfin ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez.
Le journal de presque 17h17.
Tu es fatigué, il faut te reposer.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on parlera d'Anne Hidalgo et des Parisiens.
Ce sera donc une page spéciale dépression nerveuse.
On parlera aussi du président de LR et de colonialisme.
Et ce sera donc une page gériatrie.
Et puis on parlera enfin de l'arrivée d'Éric Zemmour sur CNews.
Bon, oui, ce sera une page spéciale mort cérébrale. Et on commence avec la politique.
Oui, en route pour le siège de l'ONU, Emmanuel Macron invite les jeunes de la Marche pour le Climat à aller manifester plutôt en Pologne.
Je prends les gens pour des débiles, great again.
Le président de Les Républicains par intérim, Jean Leonetti, était en conférence de presse en fin de semaine dernière et il a parlé colonisation.
Peut-être que dans les pays que la France a colonisés, peut-être un peu mieux que les autres, on a traité les personnes qui étaient avec humanité.
Mais oui, il y a eu des viols coloniaux, des pillages, des meurtres racistes.
Oui, non mais attendez, c'est vrai, mais il y avait toujours un petit bonjour, il y avait un petit merci, voilà, c'est la French touch, on appelle ça.
France encore, bonne nouvelle pour les contribuables, la redevance audiovisuelle va baisser pour la première fois depuis 15 ans.
Ah, et ben voilà, elle va baisser de combien ?
De 1 euro.
Oh là 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 là, mais qu'est-ce que les pauvres vont faire avec tout ce pognon ?
En tout cas, coup dur pour Nagui, hein, qui faisait déjà du bénévolat ici.
Oui, on le salue. International à présent.
États-Unis, 2246 fœtus ont été retrouvés au domicile d'un médecin.
Et ça rend tout de suite plus sympathique les gens qui collectionnent des timbres.
En Tanzanie, à présent, un Américain se noie pendant sa demande en mariage, alors qu'il était en apnée à travers la vitre de leur chambre sous-marine.
Ça, c'est triste, non ? C'est vrai que c'est très triste. Et je pense que s'ils avaient eu un enfant, ils l'auraient appelé Grégory.
Passons en Italie, tout de suite. Hein. En Italie, un chasseur de 34 ans tue son père en croyant viser un sanglier.
Oui, on va pas se mentir, hein. Ce qu'il visait avant tout, c'est l'héritage.
Tourisme, maintenant, samedi à Disneyland, un visiteur a été retrouvé dans un plan d'eau après avoir pris du LSD.
Eh bien, visiblement, le week-end d'Alain Finkielkraut a été plutôt sympa.
Média, à présent, CNews se préparerait donc à embaucher Éric Zemmour, pourtant condamné récemment pour incitation à la haine raciale.
Oui, et c'est Maurice Papon qui devrait présenter la météo et le docteur Mengele, le magazine de la santé.
Média toujours, Jean-Michel Apathy était ce matin sur LCI. Il a réagi au sujet des militants qui décrochent le portrait d'Emmanuel Macron pour manifester avec, en le tenant à l'envers.
Tout ça ressemble à presque à des appels au meurtre. En fait, la tête en bas. Il y a une symbolique qui est insupportable.
Bien sûr, Jean-Rémy. Hein, retourner un portrait, c'est un appel au meurtre. Et on n'est que lundi. Hein. Il commence très très bien la semaine, Jean-Rémy. D'ailleurs, passons à l'agenda.
Oui, ce soir aura lieu la première réunion du conseil municipal de Levallois-Perret sous la présidence d'Isabelle Balkany.
Et il sera question de résoudre les problèmes de la ville, comme par exemple désigner la personne chargée d'apporter les oranges à Patoche.
Mercredi, ce sera la sortie du nouveau livre de Valérie Trierweiler.
En effet. Et après, merci pour ce moment. Ce livre s'intitule « On se donne des nouvelles ».
Oui, en fait, dès que Valérie travaille leur envoie un SMS, elle se dit ça pourrait être le titre d'un bouquin.
Oui, le prochain s'appellera d'ailleurs « Pense à ramener du pain ».
Et mercredi sortira aussi le livre d'Anne Hidalgo intitulé « Le lieu des possibles » dans lequel elle expose sa vision de la ville de demain autour de trois mots d'ordre « respirer, protéger, cultiver ».
Oui, d'ailleurs il manque un quatrième mot d'ordre très parisien qui est « Tu vas la bouger ta caisse, connard !»
Merci Guillaume, Jamel Bensala en notre compagnie. Et tiens, Canal+ diffuse Neuilly sa mère, vendredi 11 octobre à 21h.
Eh ben vous me la prenez.
Notre dernier film en date. Voilà. Oui, c'est l'information ici, hein, c'est le service public. Jamel Bensala, avant d'écouter Hippolyte Girardot et Rukyata Ouédraogo, on va parler du sommet de l'ONU spécial climat qui s'ouvre. En l'absence du président brésilien Bolsonaro, c'est Emmanuel Macron qui se pose en leader du sauvetage de l'Amazonie, dont la Guyane française fait partie, bien sûr. Le président prononcera un discours de champion de la Terre. Quant aux solutions pour sauver l'Amazonie, la France n'en manque pas.
Allô ?
Campana, Monsieur Meyer a une idée. D'ailleurs, je vous le passe, il va vous expliquer lui-même.
Allô ? Bonjour, voilà, vous allez louer un avion
Oui, louer un avion, mettre Perrin dedans et tourner au-dessus de la forêt.
Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça encore? Bon, enfin, moi, je discute plus. Je vous rappelle. Au revoir, monsieur Meyer. Conneries de merde, putain de conneries de merde.
Qu'est-ce qui se passe?
Ils veulent pas admettre que c'est foutu.
Et qu'est-ce qu'ils disent?
De vous mettre dans un avion et de faire des ronds au-dessus de la forêt.
Curieuse méthode.
Gégé Depardieu, Pierre Richard, André Valardi et Michel Robin, magnifique second rôle dans La Chèvre de Francis Weber. Alors, pour les défenseurs de la forêt amazonienne en Guyane, le président français qui appelle à protéger l'Amazonie ne le fait pas lui-même, d'après ses défenseurs. En délivrant des permis pour exploiter les mines d'or, il autorise la pollution de la partie française de la forêt amazonienne. Alors, vous qui regardez de près quand même la politique et qui vous en amusez parfois, Jamel Bensalah, Emmanuel Macron, leader écolo aux yeux du monde, mais en France, beaucoup de gens doutent de ses convictions étant donné les mesures qu'il prend. Est-ce que c'est un paradoxe qui traîne comme un boulet et qui est symptomatique de sa politique?
Bah, je dirais que la politique... c'est un problème qui est plus large que la politique française. Donc quelque part, qu'il s'y mise, qu'il décide de réfléchir à comment sauver le monde... Ça me dérange pas trop, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on peut dissocier la problématique de la politique française de la politique, en fait, qui concerne l'humanité. C'est-à-dire que c'est quand même un problème, même temps, c'est la forêt amazonienne française, c'est 1,5% de la forêt, de la taille de l'Amazonie. Donc, mais c'est vrai que bon, ça ressemble un peu à la place de la France dans le monde, quelque part.
Mais est-ce qu'il peut être crédible s'il donne pas l'exemple dans son propre pays?
Dans son propre pays, ouais.
Il y a quelqu'un qui pourrait donner l'exemple, qui ne le donne pas du tout, c'est Bolsonaro. Donc quelque part, moi, j'ai le sentiment que, en fait, son insincérité ne me fait pas. J'ai aucune action avec Macron. Hein, je préfère le dire. Mais ça ne me dérange pas. En fait, sur cette problématique-là, ça ne me dérange pas. C'est que je me dis que voilà, ça peut pas. C'est une fois par an, ils sont tous réunis pour discuter des problèmes du monde. Ils vont pas vraiment tous s'écouter, mais peut-être que si un leader, un des top leaders, commence à se préoccuper de cette problématique. Là, et si quelque part, peut-être qu'on va peut-être réussir à le convaincre de ne pas ouvrir la montagne d'or, c'est ça.
C'est-à-dire que c'est mieux que rien, en fait.
Oui, c'est mieux que rien. Maintenant, la problématique, ça va vous faire plaisir, c'est que je pense que c'est une problématique de viande, d'exploitation, de soja, parce que c'est ça, en fait. On est en train de détruire l'Amazonie pour pouvoir produire.
Il peut agir en interdisant l'importation de soja s'il veut.
C'est bien. Le problème, c'est que. C'est quoi? C'est le problème, il est chinois, puisque 80% de la production du soja brésilien est envoyée en Chine. Donc oui, c'est qu'on est dans un truc.
C'est un tout petit pays, mais c'est question de donner l'exemple, quoi.
Oui,
prend pas de décision sur le territoire, c'est compliqué après pour lui d'aller donner des leçons à la terre entière.
Moi, je crois à la politique des petits pas. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'on peut être insincère au départ et après se retrouver très vite, en fait, convaincu par une petite chose auquel on ne croyait pas. Donc voilà, je pense qu'on peut y arriver petit à petit. Je préfère ça plutôt que rien, je préfère son attitude là.
Mais est-ce qu'on pourrait pas faire des grands pas, vu que
mais ça n'existe pas.
Ça
n'existe pas, les grands pas. Ça n'existera jamais, je pense, aujourd'hui, puisque le principe de réalité, le principe de la politique veut que, voilà, la réelle politique veut que les intérêts économiques aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas changé la façon de vivre ensemble et la façon de voir le monde, fera que de toute façon, il n'y aura que des petits pas. Donc je préfère que ce petit pas soit fait aujourd'hui. Dans cette assemblée et qu'il donne l'exemple, même si il peut lui-même améliorer sa façon d'appréhender l'écologie. Et puis voilà, mais je pense qu'en tout cas, voilà, il y a pas de. Je pense que c'est mieux que rien et que je suis certain. Et je suis certain. Non, mais je suis certain que ça changera, puisque de toute façon, voilà, il a compris aujourd'hui que pour se sortir en fait du problème du gilet vert, il valait mieux mettre un gilet jaune. Du coup, voilà, aujourd'hui, il est.
Le message est entendu. C'est déjà un grand pas. C'est ça.
Oui,
Jamel Bensalah. En face de vous, il y a, et pour nous, pour nos auditeurs, Hippolyte Girardot.
Oui, tout à fait. C'est un homme de paix, hein, Jamel Bensalah. Franchement, les petits pas, ça, j'admire, formidable. Bon, à propos de couleurs, moi, j'ai écrit en fait un texte, c'était pas ça. Le truc, c'était un chiffon rouge fonctionne aussi bien qu'un taureau vert ou un truc comme ça. Bah, j'ai pas retrouvé le truc, mais bon, on y va. Dans le futile, l'inutile, le sujet aujourd'hui, évidemment, c'est la robe verte portée par Jennifer Lopez à Milan pour le défilé Versace. Elle a descendu le toboggan qui traversait la foule hystérisée au son de son tube emblématique « Love don't cost a thing ». Très ironique si on imagine le cash qu'elle a dû prendre. Bref, c'est devenu un événement car cette robe, oui, elle a réplique de celle qu'elle avait portée, imaginez-vous, en 2000. Robe échancrée jusqu'en dessous du nombril. Cette fois-ci, elle n'arrive pas à descendre en dessous du nombril. C'est comme ça, elle a changé de corps, j'imagine. Et qui avait généré à l'époque tellement de recherches qu'on avait inventé Google Images pour y répondre. Cette robe est aussi verte qu'une feuille de vigne et remplit le même orifice, le même office. Elle couvre pudiquement avec un piège à Instagrammeuse le fait que la mode est la deuxième industrie la plus polluante de la planète après celle du pétrole. 25% des pesticides vaporisés dans le monde le sont pour la fringue. Fabriquer une seule paire de jeans engloutit entre 7000 et 11000 litres d'eau. Et pour un t-shirt, vous comptez 2700 à peu près. Voilà. Si vous voulez encore boire un de ces jours, c'est mieux d'aller dans des friperies. Tous ces chiffres sont têtus, mauvais pour le business. Il faut réagir. Comment on peut faire? On pourrait faire comme à Stockholm, par exemple, où ils ont annulé leur Fashion Week. Au moins, c'est radical, c'est propre et ça envoie un vrai signal de responsabilité. Ouais, mais tous les autres sont regardés, on dit non, on va pas faire ça parce que les galettes Vaza au fromage frais ou saumon, c'est pas notre truc, c'est trop Thunberg, votre truc, on va pas faire ça. Nous. Le président Macron, donc le fameux, des petits pas, encore lui, mais il est partout, hein, celui-là, il est partout. Il a chargé François-Henri Pinault, président directeur général du groupe Kering, c'est-à-dire Gucci, Saint-Laurent, Balenciaga, de mobiliser l'industrie de la mode et du luxe. Et qui a signé donc le Fashion Pact en août 2019. C'est énorme, le Fashion Pact, hein, quand même. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'industries qui ont signé le Fashion Pact, voilà. Eh bien, alors, c'est quoi l'idée du Fashion Pact? Il s'agit de diriger les entreprises vers des actions compatibles avec la trajectoire, j'aime beaucoup ce terme, la trajectoire à 1,5 degré de réchauffement climatique via une juste transition pour atteindre zéro, oui, vous avez entendu, zéro émission nette de CO2 en 2050, c'est-à-dire demain matin. Ouh là là, attention, l'engagement, les gars, c'est autre chose que boire dans des gourdes, hein, camarades de l'humour. Et si les entreprises ne respectent pas ces engagements, qu'est-ce qui va se passer? On va leur interdire de vendre? On va brûler leur boutique, on va pendre leur designer, on va condamner Jennifer Lopez à porter une robe de bure. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah non, attention les gars, c'est pas non plus la nuit du 4 août, hein. C'est pas non plus Guillaume Meurice président, hein. On va se calmer, non. Parce qu'on parle quand même d'un business qui pèse 1500 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. 1500 milliards, je vous le redis pour que vous compreniez bien, 1500 milliards, on va pas commencer à déconner non plus, hein. Ce Fashion Pact, donc, n'est pas contraignant. Voilà, c'est comme ça. C'est à peu près comme, tu sais, le truc l'accord de Paris, voilà, c'est pas contraignant. Mais on suppose, comme l'accord de Paris d'ailleurs, que ce pacte sera respecté à cause de l'opinion publique. Mais oui, l'opinion publique, formidable, qui est très importante pour les marques. Et qu'on ne regardera pas de trop près les vraies mesures possibles qu'on pourrait faire, comme la délocalisation de la production, c'est-à-dire remettre ça plus près, le recyclage des matières premières, ou encore et surtout la multiplication des Fashion Weeks dans le monde. Alors, vu le succès de la robe verte, qui attire la fameuse opinion publique, comme le chiffon rouge, le taureau, voilà, j'ai trouvé mon truc, et la précipite dans la surconsommation, on ne peut imaginer que toutes ces opérations de greenwashing du capitalisme vont continuer de fonctionner. Très bien. Au temps du communisme, il y a eu un temps du communisme, bon, ça, voilà, on parlait d'idiots utiles pour désigner ceux qui soutenaient l'URSS aveuglément. Des gens en France comme Aragon, Yves Montand, Jean-Paul Sartre. Eh bien, dans le capitalisme moderne, on a les idiots utiles qu'on peut.
Hippolyte Girardot.
Et bim.
Merci, Jennifer. Hippo. Vous écoutez France Inter en compagnie de Jamel Belsala, de l'éditorialiste Hippolyte Girardot. Son cinéma, Les Sept Batignolles, c'est Porte de Clichy. Si vous habitez Paris, pas loin, ou même loin, que vous passez par ici, allez-y.
Tu penses à quoi? Aux rêves inutiles. Loin d'être sage, je songe comme un singe des villes.
Tu penses à quoi?
Ému par l'univers, quand ma vie danse en transe aux bras de l'enfer. De l'enfer.
Ma soleil,
ces histoires
ma
tout ce visage
ma soeur,
si souvent
sans âge qui résonne millénaire. Tes visages,
ma soleil,
ces histoires,
ma soleil,
et tous ces visages,
ma soleil.
Cette vie toxique, je m'envole dans les airs. Béton armé dans une armure amère. Vague nausée, fébrile, fidèle, éphémère.
Maasai M sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Jamel Ben Salah, le réalisateur, producteur et scénariste qui a ouvert un complexe de salles de cinéma indépendant, les 7 Batignolles. Il y a Juliette, Hippolyte Girardot, Rukia Ouédraogo. Il y a Guillaume Meurice.
Oui, je suis là. Mais oui, oui, oui. Et ce week-end, figurez-vous que c'était les journées du patrimoine. L'occasion de découvrir des vieux monuments de l'histoire de France. Par exemple, le Hippolyte était ouvert tout le week-end. Hein, vous pouviez le visiter. Ça va, Hippo? C'était bien?
Très bien, c'était très sympa.
Super, un
beaucoup
peu fatigué.
De visite,
non, mais très bien, c'est impeccable. C'est vrai que c'est important, le patrimoine. Et notre patrimoine commun, c'est la planète Terre. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Brune Poirson. Et Brune, c'est une écolo de taré. Quand elle défend le CETA, par exemple, elle imprime les éléments de langage en recto verso. Hein, ça vous la coupe, ça? Ah, c'est du capitalisme vert, on appelle ça. C'est comme le cannibalisme bio, c'est pareil. On va à petits pas, comme vous disiez, Jamel Macron. Ben Salah, pardon. C'est comme pour les jeunes qui ont manifesté ce week-end pour le climat en France. Les CRS ont distribué gratuitement des châtaignes et des patates, mais issues de permaculture. C'est important. Tout ça à cause de qui? Une gamine de 16 ans, Greta Thunberg, qui en veut aux générations passées de lui laisser seulement la promesse d'un avenir pourri. Et du coup, les générations passées, elles sont pas hyper dingues de Greta. Je suis allé les voir ce matin.
Elle devrait être en classe.
Ah, vous trouvez, oui?
Oui, je sais qu'il y a grève demain et je trouve que c'est lamentable. Et je me dis, pauvre France, c'est dans un triste état.
Triste état, cette France. Alors attention, la grève demain, c'est contre les réformes de Macron. Ça n'a rien à voir avec Greta. Avec Guetta, par contre, avec Bernard Guetta, oui, qui soutient toujours Macron. On l'embrasse, d'ailleurs, Bernard.
Bisous.
Oui, il nous écoute depuis son EHPAD. Un cœur avec la déontologie journalistique. Donc, le sujet du jour, restez concentrés, c'est bien Greta Thunberg.
Je me demande par qui elle est manipulée.
Vous pensez qu'elle l'est?
Je pense qu'elle l'est. Son physique, le fait qu'elle soit jeune, bien sûr qu'elle est manipulée. Disons que par derrière, il y a quelqu'un qui tire les ficelles, quoi. Mais je dis pas ça d'un côté péjoratif.
Ah ben non, non. Elle a un physique et un âge de manipulée, mais de manière pas péjorative. D'ailleurs, quand on dit à quelqu'un t'es manipulé, c'est souvent sympa. C'est un truc qui fait plaisir. Il y a ça et les coups de pied dans les tibias. C'est vraiment les deux choses qui font plaisir dans la vie. Allez, poursuivons sur la même thématique.
Une gamine de 12 ans qui est évidemment manipulée par sa famille ou par des gugus. Hein. Je trouve que c'est assez lamentable.
Elle n'a pas 12 ans. Hein.
Comment?
Elle a 16 ans.
Ah oui, 16 ans. Bon, c'est pareil.
Alors, non. Alors, pour Roman Polanski, oui, évidemment, mais pas pour le juge d'application des peines. Il y a une petite différence. Alors, attention, parce que pour ce monsieur aussi, il y a une différence.
Hein. C'est presque plus grave si elle a 16 ans. Hein.
Ah, pourquoi?
Parce qu'elle pourrait avoir son opinion quant à ses capacités de mobiliser. Et je crois même qu'elle est allée à l'ONU, là.
Oui, exactement.
Oui, non, mais attendez, on rêve.
Mais alors, pourquoi elle pourrait pas avoir une opinion propre? Mais
est-ce que c'est à eux de faire ça? Est-ce que c'est à un jeune de faire ça? Il va se prendre pour le Christ bientôt.
Alors, il y a quand même aussi des différences entre Jésus et Greta Thunberg. Hein. Même si j'aime bien l'idée que Jésus ait pu avoir des couettes, je trouve que ça lui rabaisse, ça serait sympa. Et c'est vrai aussi qu'il y en a pas mal qui veulent la crucifier, hein, Greta. D'ailleurs, parler de Greta Thunberg à quelqu'un, c'est quand même un bon moyen pour repérer si la conversation va bien se passer. Hein, c'est quelque chose que je vous conseille de faire chez vous à dîner de famille. Greta Thunberg, normalement, voilà, ça se passe bien. Les paroles sont souvent mesurées, posées, comme ce monsieur.
Ouais, celle-là, c'est une pauvre malheureuse qui ferait mieux d'aller se soigner.
Mais vous pensez vraiment qu'elle est...
Je connais qu'une seule Greta, c'est Greta Garbo.
Ah oui, alors c'est un autre style. Oui, vraiment, on est sur vraiment quelque chose de plus vivant, déjà, parce que c'est vrai que Greta Garbo, bon, on l'aimait bien, mais en matière d'écologie, peut-être elle a fait un bon compost. À la limite, on pourrait dire ça, mais au moins on lui reconnaît ça. Mais le mérite de ce monsieur est quand même de faire avancer le débat, hein, le dossier manipulation.
Elle est entièrement manipulée par les Verts, qui sont eux-mêmes manipulés.
Par qui ?
Demandez-leur.
Ah, intéressant, on avance. Je vais aller demander aux Verts directement par qui ils sont manipulés. Alors, a priori, pas par le lobby du charisme, hein, puisque c'est toujours Yannick Jadot, leur chef de file. Donc, on verra, ça fera partie peut-être d'une autre enquête. Mais aujourd'hui, ça ne nous empêche pas d'apprendre des choses.
En 1717, la canicule a fait sur la planète 700 000 morts. Voilà.
Et alors, quel est le rapport ?
Tout ça sur Internet. Le rapport, c'est que la Greta nous emmerde et qu'il n'y a aucune urgence. D'ailleurs, il fait 15 degrés aujourd'hui.
Ah, voilà. Et ça, on appelle ça la Pascal Proisation des esprits. C'est une méthode assimile pour devenir climatologue en freelance. Hein, c'est un quart d'heure de formation à peu près. Ça se passe au PMU, le Café des Sports. Il y a un cours qui s'appelle l'impact de la fonte des glaces sur Mont-Ricard. Et vous ressortez avec un diplôme. Vous pouvez bosser sur CNews. Hein. C'est vraiment quelque chose d'ultra efficace. Alors, ce monsieur, a priori, il a fini major de sa promo. Ça tombait bien. D'ailleurs, on le laisse conclure.
Il y a un début de réchauffement climatique qui peut durer des siècles et il n'y a en tout cas aucune urgence.
Et donc vous ne croyez pas au consensus
l'urgence
scientifique
climatique, l'urgence climatique est un leurre. Les gens du GIEC sont des menteurs et des crapules.
Et on les salue, bien évidemment. Et on salue aussi tous les jeunes qui se mobilisent. Hein. Continuez à faire passer celles et ceux des vieilles générations qui vous méprisent pour ce qu'elles sont. Les seuls responsables de la situation, ou plutôt les seuls irresponsables de la situation.
Merci Guillaume Meurice.
Ben Macron a envie de répondre.
Il y a un droit de réponse, j'en reconnais.
Non, non, mais parce que, par exemple, on parlait des petits pas. Mais elle, c'est le cas, enfin, c'est la démonstration que c'est une bonne chose d'avancer à petits pas, puisqu'u'elle est en train de faire bouger. Un monde entier et
elle va au bulldozer quand même. Moi, c'est pas ça.
Elle a fait un grand pas là, à traverser l'océan.
Non, mais c'est-à-dire que, la chose qui est intéressante dans son cas, elle, c'est de se dire en fait qu'elle a pleinement profité de la société du spectacle. C'est spectaculaire, ça une gamine de 15 ans qui décide de faire la grève tous les jours, enfin tous les vendredis. Je vais pas. Ben, à un moment donné, oui, elle a écrit une histoire qui est absolument formidable à raconter. Voilà. Et donc, quand même, c'est quand même un truc absolument. C'était pas sûr que ça fonctionne. Et finalement, ce sont les médias qui s'en sont emparés parce qu'on est dans une société de spectacle. Comme quoi, il faut fonctionner de façon spectaculaire.
Mmh. Mais sur la prise de décision,
Et que moi, je pense qu'elle est totalement sincère aussi. Mmh. Et je pense que son envie à elle, c'était d'avancer de façon locale. Elle s'attendait pas. mais elle s'attendait pas à ça. Et donc aujourd'hui, c'est quand même génial. Vous avez raison. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous jetez ça, cette discussion dans un repas, tout le monde,
on
s'écharpe. C'est absolument. Mais,
Jamel voilà. Ben Salah avec nous. Juliette, vous avez un sujet à soumettre à Jamel.
Oui. Alors il paraît qu'il y a trop de travaux dans Paris, mais aux abords de Paris, c'est bien pire pour que puisse exister le Grand Paris. Alors voilà, c'est le chantier du siècle. Il y a plus de 6000 personnes qui travaillent dessus. Le premier chantier souterrain d'Europe. D'autant qu'il faut pas se planter parce que l'urbanisme, c'est le terrain parfait pour la FBI. La fausse bonne idée.
Messieurs, l'avenir est pour demain. Il faut aller de l'avant et j'irai. Problème numéro 1, décongestionner Paris. C'est effroyablement simple. Il suffit de bétonner la surface de la Seine, tracer une ligne blanche au milieu, et vous avez l'autoroute que la capitale mérite. Maintenant, venez voir ça. Je ne recherche pas que l'efficacité. Je veux aussi marquer mon époque. Des deux côtés des tours de Notre-Dame, je bâtis deux tours de béton et d'acier. Le Moyen-Âge et le XXe siècle se tendent la main.
Voilà, c'était un extrait du film Les Gaspards, qui est un film de Pierre Tchernia, et on entendait Charles Denner. Alors, votre cinéma, Monsieur Ben Macron.
Ça va rester.
Votre cinéma, donc Les Sept Batignolles, dans son implantation, est l'incarnation même du Grand Paris. De la terrasse, oui, il y a une terrasse, il faut le dire aux gens, ça n'existe plus des cinémas de Paris, il y a des terrasses. Au-dessus du jardin, à gauche, la banlieue et son nouveau décor à la Blade Runner. Et à droite, Paris et Paris 17e arrondissement et son architecture du siècle précédent. Ça, c'était dans votre tête quand vous avez...
Non, ça, c'était dans la tête des urbanistes de la mairie de Paris. Parce qu'en fait, le quartier dont vous parlez, c'est vraiment la configuration d'un nouveau quartier, justement, où l'idée, c'était justement de mélanger des habitations. Plutôt extrêmement intéressant ce qui a été pensé, ce qui a été fait. C'est que, donc, l'idée, c'était de mélanger de l'accession à la propriété, du loyer intermédiaire et du HLM. Et au milieu de tout ça, évidemment, pour tout financer, du tertiaire. Beaucoup de tertiaire, trop de tertiaire. Voilà. Et nous, au milieu, pour se donner bonne conscience, c'est-à-dire un peu de culture. Voilà, un culture. Et puis un petit centre aéré, petit centre culturel financé par le cinéma, mais offert aux Parisiens. Donc c'était, mais c'est vrai qu'au final, c'est quand même un quartier, une configuration extrêmement intéressante. Vous avez un parc, il n'y a quand même pas beaucoup de parcs à Paris. Là, c'est quand même un vrai parc.
Oui, parce que de la terrasse, on voit un parc. Ah oui, on voit des gens se reposer, on voit des gens faire, des gamins faire du sport, avoir de la place pour en faire.
Plein de rats, des souris.
Mais bien sûr, c'est l'écologie.
Mais c'est naturel. Non, mais en tout cas, non, voilà, vous avez, on a quand même une configuration de ce que pourrait être justement le nouveau Paris enfin, à la périphérie de l'ancien Paris, du Paris...
Et valable pour toutes les grandes villes.
Oui, je pense, et c'est assez intéressant. Donc ça a été fait, ça vous plairait, c'est vraiment un éco-quartier. Donc pour
et
le
Guillaume.
Coup, non mais c'est vrai, et en plus, non mais c'est bien, c'est les usages, enfin ils ont vachement copié ce qui s'était passé à Stockholm, qui était en fait, initialement ils avaient aussi prévu une ville olympique, ils avaient perdu l'élection, enfin ils avaient perdu
la candidature.
La candidature, du coup ils ont transformé tout ça en ville éco, mais ils se sont pas... obstinés pour récupérer les Jeux Olympiques derrière, eux, contrairement à nous. Et donc, du coup, ils ont fait une ville qui était extrême, enfin, qui est vraiment intéressante. C'est un nouveau Stockholm. Et donc, ils ont un peu copié cette chose-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que, en tout cas, ces trois populations, parce qu'on parle beaucoup d'écologie, mais on ne parle pas suffisamment des humains. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une problématique à Paris, c'est qu'il y a de moins en moins de mixité sociale. Ouais. Et ici, dans ce quartier, on retrouve une mixité sociale. Même si ce parc... Vous avez l'est, enfin vous avez le nord, et vous avez le sud, et vous avez une petite rivière artificielle au milieu. Et vous avez une vraie différence entre le sud qui touche, qui est connexe au Batignolles historique, celui à 12 000 euros du mètre carré, et celui de Porte-Clichy qui était plutôt à 6-7 000 il y a quelques années, qui maintenant est à 14 000 aussi.
Mais comment est-ce qu'on pète ce périphérique alors?
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas vous avez une mixité sociale, en tout cas qui s'est renouvelée. Parce que quand même, mine de rien, je trouve que la mairie, elle a quand même plutôt bien, elle s'est bien battue là-dessus. On retrouve des corps intermédiaires, on retrouve des profs. Il n'y avait plus de profs à Paris. Et dans mon quartier, à chaque fois, au cinéma, quand j'y suis, eh ben, il y a des profs qui sont là. Il y a des profs de collège, il y a des profs du lycée, il y a des profs de, et puis voilà, il y a des infirmières, il y a des, et ça, c'est plutôt cool. Il n'y a pas que des CSP+. Et donc ça, c'est vachement important. Et je pense qu'en tout cas, ce qui est en train de se dessiner dans ce quartier, préfigure ce qui pourrait se passer ailleurs, c'est-à-dire quand on est vers la porte de la Chapelle, où ils essayent justement d'intégrer la plaine Saint-Denis. Alors ça va être plus difficile, mais non, mais ça se rapproche. Là, on voit que les plaines sont en train de.
Il y a quand même un truc, porte de la Chapelle. Il y a quand même la sortie. Il y a l'autoroute.
Bien sûr, mais
le problème, c'est la bagnole par rapport à ça. Pour créer des lieux, il faut supprimer de la voiture pour créer des lieux de vie. C'est quand même la base. Le problème de Paris, c'est qu'effectivement, le périphérique.
Un petit pas, un petit pas.
Non,
c'est
vrai.
Personne ne vous écoute, hein.
Non, mais vous avez raison. Mais moi, j'ai grandi là-bas. J'ai grandi à la plaine Saint-Denis. Donc, je vois bien. Mais entre ce que c'était et ce que c'est devenu, il y a quand même déjà une évolution. Même si c'est pas extraordinaire. Déjà, on a commencé à les cacher, puisqu'on a recouvert cette autoroute A1 qui était absolument terrible. Donc, voilà. Peut-être qu'un jour, on va réussir parce que là, ce sont quand même des échangeurs absolument. Genre, on a quand même besoin de connecter les gens et connecter les villes. Genre, pour l'instant, voilà, j'arrivais de Marseille tout à l'heure. Donc, le Grand Paris. Donc j'ai pris le RER. J'ai voulu faire l'expérience pour venir jusqu'ici en me disant tiens, je vais essayer. Donc j'étais à Orly et donc j'ai pris un bus qui m'a amené au RER C. Ensuite, pour venir ici, il fallait prendre ensuite un autre RER j'ai pris deux RER et un métro. C'est un enfer, quoi. C'est que rien n'est fluide. Il y a des travaux partout, ça s'arrête tout le temps. Et puis je voyais des pancartes partout. Il y a marqué 300 chantiers en construction. Mais donc le problème, c'est que les villes sont en train de se grossir et que les transports en commun, eux, sont quand même très inefficients, en fait. Voilà, ouais. On n'arrive pas à traverser les villes de nord au sud.
Et c'est ce que vous essayez de faire avec ce cinéma.
Et ben nous, en tout cas, on essaye de faire en sorte que les gens puissent s'échanger facilement.
Jamel Bensalah, on va vous soumettre un petit exercice avec Juliette Arnaud.
Alors,
ça va bien.
C'est parce que j'ai parlé de... C'est parce que j'ai parlé de...
Rukyata Wedrawa, vous êtes... C'est tellement discrète. C'est à vous. Je suis là. Alors, on se réveille.
Monsieur Jamel, vous connaissez mon tonton Théophraste?
Pas encore.
Ah ben lui, il vous connaît très bien. Il est professeur de cinéma. Il a formé les plus grands. Idrissa Ouédraogo, Clint Eastwood, Martin Scorsese. Ils ont tous suivi ce cours à l'université de Ouagadougou. Mais le problème, c'est que les gens ne vont plus au cinéma. Avec Internet, les gens piratent les films de Spider-Man et de Jean-Luc Godard et les regardent sur leur smartphone. Et puis aujourd'hui, tout le monde a une télé au Revoir la France chez moi au Burkina. Donc, ils ne vont plus voir des films en salle. Alors, pour redonner le goût du cinéma aux gens, tonton Théophras a créé un ciné-club en plein air, un ciné cocotaillé, comme aime dire ma sœur. Un cinéma sans toit, si vous voulez. Mais la dernière fois que j'étais à Ouaga, le cinéma de tonton n'avait plus de mur. Alors, il projetait ses films avec son vieux projecteur sur le mur d'Alidou, le garagiste, mais il s'est effondré lors des dernières pluies. Salif, le menuisier, a commencé à en construire un beau qui aurait pu convenir, mais comme ses affaires vont mal, il n'a fait que la moitié. C'est le bas qu'il a pu faire. Monsieur Konaté, lui, a prêté son mur une fois, mais tonton s'est trompé de bobine et a projeté la vie d'Adèle au lieu de la vie est belle. Et je peux vous dire que ça a foutu un beau bazar dans le quartier. Tous les hommes du quartier sont venus voir les scènes où Adèle et Léa... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, les mamans sont intervenues pour amener leurs maris et leurs enfants dans les maisons. Madame Konaté a chassé tonton en le traitant de proxénète. Et quant à son mari, elle l'a insulté et elle l'a ramené tout droit sur le chemin avec un coup de pilon. Tonton a donc décidé de squatter le mur de monsieur l'ambassadeur de France, monsieur Tourneau. Alors, monsieur Tourneau habite une très grande maison entourée par le plus grand mur du quartier. Un grand mur haut et large, comme le mur entre le Mexique et les États-Unis. L'ambassadeur avait agrandi le mur dès son arrivée pour décourager les enfants du quartier de voler ses mangues. Oui, l'ambassadeur de France n'aime pas trop partager ses mangues. Aucun mur n'a jamais empêché les enfants de voler des mangues. Eh ben oui, ça rend les choses un peu plus compliquées, c'est tout. D'ailleurs, tous ceux qui construisent des murs partout dans le monde devraient le savoir. Tonton de France n'avait pas d'argent pour acheter le tissu blanc pour faire l'écran. Chaque enfant du quartier a dû emprunter discrètement un boubou blanc à son papa qu'on a cousu ensemble. Les plus grands ont accroché cet écran de fortune sur le mur de l'ambassadeur Tornado. Ah, je me souviens. Je ne me souviens plus du film ce soir-là. Tout ce que je me souviens, c'est de la lumière qui se reflétait dans les yeux de ses enfants et de leurs parents. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas terminer sans parler de mon ami Bernie Goldblatt. Comme vous, Djamel, Bernie est un réalisateur qui ne se contente pas de créer des films. Actuellement, il construit un cinéma, le ciné Gimbi à Bobo Dioulasso. Au Burkina Faso, on brûle des écoles, des églises, on tue des gens. Bernie, lui, il construit un cinéma. On dit que la culture peut faire reculer la barbarie, que ça peut semer des graines de la liberté, de la résistance, de tolérance dans les esprits. Bernie, lui, il y croit, et moi aussi j'y crois. Et si vous aussi, si vous y croyez, faites un don sur le site www.cinegimbi.org. Merci.
Merci Rukyata Ouedraogo. Bien sûr, ouais. En partageant votre chronique sur notre page Facebook, on mettra le lien de ce ciné Gimbi qui se monte à Bobo Dioulasso, Burkina Faso, qui est le pays du FESPACO, qui est le plus grand
Absolument.
Festival
un
du cinéma.
Un beau cinéma comme mais vous avez fait.
C'est formidable,
un
c'est formidable. Voilà, Ben Macron est totalement OK. Et il va soutenir. C'est un peu...
Merci beaucoup, Rukyata Ouedraogo. Vous jouez demain à Saint-Jean-Bonnefonds, c'est près de Saint-Étienne. Vendredi, vous jouez à Surgères, c'est pas loin de La Rochelle. Et ce dimanche, vous serez à Pompéan, c'est près de Rennes. Voilà pour toutes ces informations. Nous sommes avec Djamel Bensalah. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'aborder le sujet sur les maquilleuses, qui se considèrent comme les prolétaires
les parents pauvres du cinéma.
Oui.
Il y en a beaucoup d'autres, hein, les auteurs aussi.
Oui.
Donc, on a le même problème, la même précarité.
Mais c'est un sujet qu'on retraitera bien sûr.
Oui, je pense que c'est un sujet très important.
Ah bah oui,
je vous invite à le traiter dans mon cinéma. Vous venez faire une émission spéciale dans mon cinéma, comme ça on parle cinéma.
On va au 7 Patignolles, comme
c'est
vous voulez.
Déjà
c'est à gauche, en sortant à gauche, Porte
Clichy. Oui, métro Porte Clichy. Juliette.
Alors, on vous propose de répondre à un questionnaire par Jupiter Proust. C'est un peu Proust, c'est surtout beaucoup par Jupiter. Il faut répondre vite, les questions sont en rafale.
Je suis très mauvais en trucs rapides.
Un peu vite.
Non, pas vite. Je suis très mauvais.
Bon, alors,
moi, je suis un diesel, comme ça, j'ai besoin de temps. Quoi.
Petit pas. Sur une échelle de 0 à 10 de la gauche, à combien vous situez-vous?
À 5.
Oui, Ben Macron. Sur une échelle de 0 à 10 de la droite, à combien vous situez-vous?
À droite?
Oui.
À 1.
Ah, où sont les 4? Je sais pas, il y a eu des perditions. Vous aimeriez être l'ami imaginaire de quel dictateur?
Fidel Castro.
Oui, évidemment, ouais. Pour les cigares, on a bien compris. Qui est le ministre de l'Éducation nationale?
Blanquer.
Très bien. Oui. Alors, vous êtes Jean-Michel Blanquer. Quel film rendez-vous obligatoire ?
Le ciel, les oiseaux et ta mère.
Pour des questions de droit.
En boîte de nuit, Ayam danse le Mia, Castaner, la Macarena. Et vous ?
La fièvre.
Oh ouais. On est à 42 minutes de la fin du monde. Vous pratiquez quelle occupation ?
La même que la vôtre.
La masturbation. L'agence Thomas Cook ne peut pas vous rapatrier. Dans quel pays restez-vous ?
Ça, c'est terrible, ça. C'est compliqué. Cuba. Pour rester à Cuba.
On reste avec Fidèle. Dans vos rêves, quel personnage de Game of Thrones êtes-vous ?
Alors, j'ai jamais vu Game of Thrones.
Très bien. Dans vos rêves, quel personnage de Dallas êtes-vous ? J.R. le méchant, Bobby le teubé ou Sue Ellen, la boisson soif ?
Sue Ellen.
Donc, rapport toujours très bien.
Une dernière ?
De quelle artiste féminine auriez-vous aimé être la muse ?
Frida Kahlo ?
Ah ouais, ouais.
Et je crois que vous êtes la deuxième personne à répondre.
Ah, c'était Frida Kahlo. C'est juste. Joliment. Merci Juliette. Et merci aux bonnes réponses de Ben Castro.
C'est quand même bien de démarrer l'émission en étant Ben Macron et puis la dernière Ben Castro quand même.
Jamel Ben Salah voilà, avec nous. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. On rappelle que votre cinéma est un peu plus qu'un cinéma, un lieu d'échange, de rencontres, d'expos, d'animation qu'on vous conseille chaleureusement parce que c'est très joli et dans un endroit à découvrir le nouveau quartier des Batignolles à Paris si vous avez la chance d'y passer. Métro Porte de Clichy à gauche, comme dirait l'autre.
Et il y a de la lumière. C'est pas comme tous les autres cinémas. C'est pas qu'une salle obscure, c'est aussi beaucoup de baies vitrées.
Voilà, il est comme vous, cinéma, il vous ressemble. Il est un peu plus que drôle, en fait.
Merci, Jamel. Et la diffusion de Neuilly, sa mère, sur Canal, vendredi 11 octobre à 21h. Merci, les amis. Demain, on retrouve l'acteur connu pour avoir incarné Gainsbourg au cinéma. On sera avec Eric Elmosnino.
Un gentil petit gars.